Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le Gagne-Pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Mélissa.
Bonjour Bertrand.
Merci beaucoup Mélissa d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. Tu es Product Owner Blockchain chez SmartChain. On va avoir l'occasion d'expliquer ça dans le détail, mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Bien sûr, donc je m'appelle Mélissa, j'ai 25 ans, donc jeune Alsacienne qui a quitté sa ville pour aller étudier à Lyon. Donc je suis diplômée de l'EM Lyon et de Berkeley, là où j'ai fait du coup une spécialisation en tech et en entrepreneuriat avant de signer mon CDI il y a à peu près 6 mois maintenant.
Ok, est-ce que tu peux également, Mélissa, nous raconter ton parcours professionnel avant cette première expérience dont on va parler en détail ? Qu'est-ce que tu as fait comme stage ? Qu'est-ce que tu as fait comme expérience avant ce premier job ?
Donc en premier stage que j'ai effectué à l'EM Lyon, j'ai choisi de le faire en banque d'investissement dans un département innovation au sein d'une banque qui s'appelle Natixis, qui est au sein du groupe BPCE.
Et après, tu as eu une deuxième expérience en M2, comme on dit. Et là, c'était plus dans l'entrepreneuriat.
C'est ça. En fait, j'ai suivi un parcours d'un an qui a été co-créé par School Lab, qui est un incubateur, et UC Berkeley, donc une université prestigieuse aux États-Unis, qui était un programme qui s'appelle Le Bridge, qui a pour objectif d'accompagner les étudiants sur un an d'échange où on a un premier semestre qui sert à vraiment donner toutes les bases de l'entrepreneuriat avant d'intégrer du coup UC Berkeley pour un semestre académique à San Francisco en Californie où on étudie justement des sujets qui tournent autour de la tech et de l'entrepreneuriat. Donc là, moi, je me suis spécialisée sur la technologie blockchain. Et ensuite, on a 3 mois d'incubation où on incube un projet qu'on a décidé de lancer ou une start-up qu'on voulait lancer. Et c'est là que j'en ai profité pour lancer ma start-up qui s'appelle Start in Blockchain.
On arrive à se concentrer à San Francisco, à Berkeley, sur le business, oui, vraiment.
On y arrive plutôt bien parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont là et tout l'écosystème est là pour. Donc c'était vraiment.
Mais on en profite un peu quand même.
Bien sûr.
Ok, donc maintenant tu as rejoint donc une entreprise qui s'appelle SmartChain. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait cette entreprise ?
Bien sûr. Donc SmartChain accompagne les entreprises ou les porteurs de projets dans la création de projets qui vont tourner autour du Web3. Donc on va vraiment les accompagner dans. Leur donner les codes de l'écosystème et les aider à créer leurs projets, les accompagner de bout en bout sur ces sujets-là.
Le Web3, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs ce que ça veut dire en quelques mots ?
Oui, donc pour te l'expliquer, je vais commencer par ce que c'est que le Web 1. Donc à l'époque où Internet a été créé, tu sais, on avait les Minitel et tout ce qu'on faisait, c'était simplement aller lire de l'information sur Internet. Donc on pouvait lire des articles, puis arriver le Web 2. L'ère dans laquelle on est maintenant, où non seulement on peut lire des choses sur Internet, mais on peut également interagir ensemble. Donc je peux t'envoyer un message, tu peux me répondre sur LinkedIn, mettre un
petit
like.
Les réseaux sociaux, exactement. En très clair.
Le gros problème avec le Web 2, c'est que les GAFAM détiennent, on va dire, toutes nos informations personnelles. Donc aujourd'hui, si je veux me créer un compte sur une plateforme, je vais mettre mon nom, mon prénom, mon adresse, mon email, mon numéro de téléphone. Et toutes ces informations-là, je ne vais pas les détenir. C'est du coup les sites Internet qui vont les utiliser, qui vont souvent aller les revendre à d'autres entreprises pour se faire un petit peu d'argent.
Ce qu'on dit, c'est si c'est gratuit, c'est toi le produit.
Exactement.
Ok.
Et du coup, le Web3, donc là où il arrive à s'imbriquer, c'est qu'il va avoir pour objectif de vraiment rendre le pouvoir à l'utilisateur et faire en sorte que l'utilisateur puisse détenir ses données.
D'accord. Et ça s'appuie sur les technologies spécifiques, dont la blockchain.
La blockchain, okay. Exactement.
Ok, alors on va revenir sur ton métier, qui est le cœur du sujet qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire ton métier de Product Owner Blockchain. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce métier ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bien sûr. Donc un Product Owner Blockchain, c'est une personne qui va s'occuper de prendre la place du client au sein d'un projet et qui va vraiment essayer de faire en sorte que quand on crée un projet, donc quand on accompagne un client sur un projet, on respecte bien les besoins du client de A à Z on respecte bien les délais qui ont été impartis, on respecte bien tout le budget que le client a voulu mettre en place.
Souvent, on essaie de traduire le métier. Alors, avec Product Owner, et alors particulièrement Product Owner Blockchain, ce n'est pas évident, hein, parce qu'on a souvent des anglicismes, etc. Mais moi, j'ai trouvé une traduction que j'ai trouvée intéressante. Est-ce que tu peux me dire si tu considères que la traduction, la bonne traduction, ça pourrait être chef de projet numérique en mode agile, c'est-à-dire en gestion agile du projet? Est-ce que ça permet d'expliquer bien ce métier?
Ouais, je pense que la fin appuie vraiment dans le cœur de ce que c'est que le métier, parce que vraiment, un product owner travaille forcément en méthodologie agile.
D'accord.
Il ne peut pas vraiment fonctionner d'une autre manière, parce que c'est vraiment la seule méthode qui va vraiment faire en sorte que, qu'on soit vraiment sûr que le client valide à chaque période, donc à chaque itération, ce qu'on a développé pour lui.
D'accord. Et dans la définition que je te donnais, il y avait aussi produits numériques. On est bien en train de faire des produits numériques. Ça veut dire que les gens avec qui tu travailles, c'est les développeurs. Grosso modo, la grande majorité sont des développeurs.
C'est ça. Au quotidien, j'interagis en tant que product owner, qu'on appelle souvent PO. Donc j'interagis au quotidien avec les développeurs full stack.
D'accord.
Qui vont s'occuper du coup de faire tout ce qui est front-end et back-end.
D'accord.
De tous les développeurs qui sont plutôt autour des smart contracts. Donc ça, c'est les contrats intelligents sur la blockchain, qui sont spécifiques à certains types de blockchain. Mais également avec les designers, qu'on appelle aussi UX, UI.
D'accord. Alors UX, expérience utilisateur, ouais. UI, interface utilisateur.
Exactement.
C'est bien ça.
Et eux, du coup, s'occupent plutôt de créer tout le parcours, de créer les maquettes et de faire en sorte que les maquettes ressemblent vraiment au produit final.
D'accord. Donc, on est bien dans un univers 100% digital. On crée un produit quand on est product owner, qui est un produit digital. Mm-hmm. On le crée avec des développeurs et des gens qui travaillent sur l'expérience utilisateur dont tu parlais, sur des univers digitaux, 100%. Et donc, la logique de la traduction qu'on évoquait tout à l'heure, elle correspond pas mal au métier, si on veut essayer de le rendre simple pour ceux qui nous écoutent.
C'est ça. Et pour le rendre encore plus simple, je dirais vraiment que le product owner, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est celui qui va un petit peu être au cœur et qui va articuler tout le projet. Donc, s'adresser à toutes les bonnes personnes et faire en sorte de donner à chaque fois des feedbacks aux clients pour qu'ils sachent où on en est.
Est-ce que tu peux, puisqu'on parle de ça, expliquer aussi ce que c'est que la méthode agile? Qu'est-ce que ça veut dire, la méthode agile, dans ton métier?
Alors, la méthode agile vient pour répondre à un problème qu'on avait avec le cycle en V, ce qui était auparavant, où on commençait à développer un produit. Donc d'abord, on allait voir le client, on récoltait son besoin, puis on commençait à développer. Et une fois qu'on avait terminé de développer toutes les features, donc toutes les petites étapes du projet, on lui livrait le projet final, on lui disait « Tiens, voilà le projet que tu m'as demandé. » Et en fait, le problème, c'est que souvent, à la fin, on se rendait compte que ce n'était pas exactement ce que le client voulait. Et là, en fait, on se rend compte qu'on doit tout recommencer du début.
D'accord. Donc, il y avait trop d'écart par rapport à l'objectif. Et donc, on a inventé une méthode qui permet plus rapidement de se rendre compte si on est bien en phase avec ce qu'on a prévu.
C'est ça. D'accord. Là, c'est une méthode qui est beaucoup plus cyclique.
D'accord.
Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va diviser le projet en plusieurs petites étapes qu'on va appeler des sprints.
D'accord.
Et à chaque
sprint, au sens où on donne aussi l'impulsion pour que ça aille vite.
Un petit coup de boost. En général, c'est une semaine ou deux pour un sprint.
D'accord.
Et ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de ce sprint, on va présenter au client ce qui a été développé pendant ce sprint. Comme ça, il nous fait un retour sur ce qu'il aime bien et s'il y a des problèmes ou des choses qui ont été mal comprises. Au moins, ça permet d'avoir plus de flexibilité pour qu'au cours du sprint suivant, on puisse développer la feature d'après, mais on puisse aussi revenir sur ce qui ne fonctionnait pas et le remodifier directement.
D'accord.
Comme ça, pas de surprise, à la fin, il se rend compte qu'il a un projet qui correspond entièrement à ce qu'il attendait.
Donc, cette méthode agile, elle est clairement adaptée au développement web.
Absolument.
Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans la méthode agile? Parce qu'on a parlé dans les échanges qu'on a eus avant du daily. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le daily pour ceux qui ne connaissent pas ça et qui nous écoutent?
Donc, le daily, comme son nom l'indique, c'est tous les jours. Ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on se regroupe avec les développeurs et toutes les personnes qui tournent autour du projet en interne et qu'on refait un point sur qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et est-ce qu'on a rencontré des difficultés hier.
D'accord. Ça implique combien de personnes un daily?
Ça dépend de la taille du projet, mais en général, c'est tous les développeurs qui sont sur le projet. Donc, pour un petit projet, ça peut être simplement un ou deux développeurs. Et quand c'est des plus gros projets, on peut tourner autour de 7-8 développeurs.
D'accord. Et on fait ça à quelle heure?
On fait ça le matin, pour bien commencer la journée. Et en général, c'est autour de 9h30-10h.
D'accord. Pas trop tôt pour les développeurs, quoi.
C'est ça.
Okay. Ça te change un peu de la banque.
Exactement.
Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer quelles sont les missions quotidiennes d'un product owner, d'une product owner blockchain ?
Alors, les missions quotidiennes, ça va être un petit peu compliqué, mais ce que je peux faire, c'est que je peux te dire mes missions hebdomadaires.
Très bien, ça me va très bien.
Mieux. Donc, comme je te l'ai dit, on commence la journée par un daily.
Ça commence.
Et je t'ai expliqué tout à l'heure qu'on divisait notre projet en sprint.
Ouais.
Donc, un sprint d'une semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire le sprint planning. Donc, en fait, on va tout simplement faire un premier meeting de une heure ou deux où on va se dire tout ce qu'il y a à faire cette semaine. C'est ça.
D'accord.
J'ai divisé en, on va dire, 20 tickets, 20 petits tickets qui expliquent à chaque fois toutes les petites choses qu'il faut faire. Et à chaque fois qu'on a terminé une chose à faire, on déplace le ticket en disant « ça, c'est fait ».
D'accord.
Ça, je suis en train de le faire.
Ça, c'est inclus dans la méthode agile. C'est-à-dire que c'est aussi une sorte de tableau de bord de la méthode agile pour suivre ce qui se passe.
Exactement.
Donc, tout le monde voit ce qui se passe.
Tout le monde voit ce qui se passe.
Okay.
Au tout début, on met les tickets dans ce qu'on appelle le « backlog ». C'est un petit peu un endroit qui regroupe tous les tickets qui restent à faire. Et ensuite, on les déplace sur des colonnes spécifiques qui sont en train d'être faites, donc « doing ». Ensuite, on a la colonne « terminée » et la colonne « PO to review ». Donc là, ça veut dire « à toi, PO, de vérifier si c'est OK pour toi ou pas ».
Ça, c'est
et
pour
ensuite,
toi.
Ça passe en « done ».
Ça, on t'a passé le bébé.
C'est ça.
OK.
Donc après, le sprint planning,
ouais.
On a ce qu'on appelle… du coup, on a notre période de sprint où les développeurs font leur sprint. Et quand c'est terminé, on a nos sprint review où là, on va revoir un par un tous les tickets pour voir si c'est exactement ce qu'il fallait, s'il y a des bugs ou pas.
D'accord.
Et une fois que c'est terminé, on a la sprint rétro, donc le rétro planning sprint, qu'on ne fait pas tout le temps. Celle-là, elle est un peu facultative. Ça dépend si on a eu des problèmes pendant le sprint ou on revient dessus. Et sinon, on passe à la présentation au client.
D'accord. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on fait une petite interaction avec le client pour vérifier qu'on est bien en phase avec ce qu'il a en tête, ce qu'il veut, ce qu'il a souhaité faire avec vous.
Absolument.
OK. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier de product owner blockchain ?
Bonne question. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai fait une école de commerce. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été passionnée par la tech. J'avais commencé par un bac S et initialement, je voulais faire une école d'ingénieur. Mais j'ai un petit peu changé d'avis entre-temps parce que j'aimais bien le côté managérial. Mais j'ai toujours eu un petit manque de me dire que la tech, ça me manquerait bien et que toute cette partie technique allait me manquer si je restais dans un métier full management. Ça m'a toujours passionnée. J'ai appris moi-même du coup à coder en Python.
D'accord.
J'ai pris des cours d'HTML, CSS, JavaScript, donc vraiment tous les langages de programmation.
C'était une option dans ton master ou c'était en plus que tu faisais ?
C'était un petit cours à la carte qu'on pouvait prendre en facultatif.
D'accord.
Et sur lequel j'ai foncé. À la suite de quoi, j'ai appris un petit peu à utiliser plein d'outils qui allaient me servir. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le métier de product owner, c'est que ça permet d'avoir un pied dans la tech, mais sans forcément mettre les mains dans le cambouis à 100%.
D'accord. Donc, ça correspond à ce que tu avais envie de faire, mais comment tu as choisi ce métier ? C'est-à-dire, comment ça s'est passé ? Comment tu es arrivé à comprendre que ce métier-là, product owner, c'était celui qu'il te fallait ?
Ça m'a pris du temps. Ça a été un gros travail de recherche. Au début, je pensais vraiment beaucoup que j'ai vraiment aimé le métier de product manager, donc chef produit, dans lequel j'aimais beaucoup cette partie de création d'un produit, création d'une offre pour la boîte ou pour un client. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, le métier de product owner, duquel on ne parle pas énormément, est beaucoup plus axé sur la partie de delivery, donc la partie où les développeurs développent le projet. Et les interactions avec les développeurs, elles sont hyper importantes parce que les développeurs et les clients ne parlent pas le même langage.
C'est clair.
Donc, il faut un traducteur entre les deux.
Donc, tu as un rôle de décodeur un peu.
C'est ça, un petit peu de Google Traduction de la méthodologie agile.
Mais en même temps, tu sais coder parce que pour parler avec les développeurs, il faut quand même comprendre de quoi ils parlent et ce qu'ils font.
Alors, je suis très rouillée. Effectivement, j'avais appris à coder à une certaine période. Aujourd'hui, je sais lire la plupart des lignes de code, mais je serais peut-être incapable de les refaire toute seule, voire ça me prendra énormément d'heures et de jours de boulot.
Mais la question que je pose, elle est aussi pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire que pour faire ce métier, il faut quand même avoir une appétence avec le code avec les développeurs.
Ouais, il faut avoir au moins une appétence sur à quoi ressemble une architecture technique. À quoi s'attendre quand on parle avec un développeur. Donc, c'est pas forcément une chose qu'il faut maîtriser à 100%. Moi, quand je suis arrivée chez Smart Change, j'avais pas forcément ce bagage technique. J'ai beaucoup appris sur le terrain, j'ai beaucoup appris à discuter avec les différentes personnes qui travaillaient au sein de la boîte. Et c'est hyper important de se dire que, certes, on a besoin d'avoir un petit bagage technique tout de même, mais on peut quand même apprendre aussi en faisant.
Ok, Mélissa, c'est très clair. Alors après, la question, c'est quelles sont les trois principales qualités requises pour ce job ? Et tu m'as dit, c'est pas trois, c'est quatre. Alors, c'est quoi les quatre qualités requises pour ce job ?
Alors, la première, je dirais que c'est vraiment la structure et l'organisation. Il faut vraiment pouvoir découper le projet en des tickets qui vont être très clairs pour les développeurs, réussir à bien traduire le besoin. Donc vraiment, la structure est très importante, l'organisation aussi.
Ma grand-mère dirait qu'il faut avoir une tête bien faite.
C'est ça. Ouais. ensuite, pour la deuxième qualité, je dirais que ce sera les qualités humaines. Parce que, comme je te l'ai dit, on est amené vraiment à interagir avec énormément de personnes et qui ont des profils très différents. Donc, il faut réussir à avoir cette empathie et cette manière de se savoir parler avec des personnes qui vont être différentes.
Donc là, on pourrait parler de soft skills, quoi.
C'est ça.
OK.
Absolument. En dernière qualité, je dirais quand même les qualités techniques, enfin les compétences techniques plutôt, parce que arriver sans vraiment savoir à quoi s'attendre, ça peut être vraiment très compliqué et très décourageant. Parce que quand le développeur va vous parler langage technique et que vous allez rien comprendre, vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fais là ?
Il va se moquer de toi un peu.
C'est ça. Mais ils vont se moquer de toi ensemble. Et enfin, la dernière, donc la quatrième que j'ai ajoutée en bonus, c'est le savoir dire non. Et ça, on ne s'y attend pas forcément toujours, mais en tant que product owner, il faut savoir dire non à son client. Même si c'est son projet et c'est lui qui décide de ce qu'il veut à la fin, quand on arrive en plein milieu d'un sprint et qu'il faut livrer une solution le lendemain, si le client vient vous dire qu'il faut ajouter ces quatre features-là pour demain, bah, parfois, il faut savoir oser lui dire non, ça ne sera pas possible et on ne peut pas faire ça.
Ok, alors attention, QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un product owner ?
Alors, combien ça gagne un product owner ? Ça va dépendre de l'entreprise dans laquelle on est et ça va dépendre du projet sur lequel on travaille. Globalement, pour te donner une fourchette assez large, je dirais que c'est entre 38 et 48K.
D'accord.
À savoir que 48K, ce sera plutôt pour des grosses entreprises.
Et 38, ça correspond aux juniors ?
Exactement.
Ok.
38 correspondra plutôt aux juniors. En général, c'est des postes pour les personnes qui sortent d'école ou qui sont jeunes diplômés d'une école de commerce, par exemple.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des primes ? Est-ce qu'on est incentivé dans ce métier ? Est-ce qu'on peut gagner un peu plus si on fait plus vite, mieux ?
On a souvent des primes qui peuvent être aux alentours de plus 5 à 10K, en moyenne plutôt plus 5, qui vont être du coup sur l'année.
D'accord, ok. Et sur le travail effectué par le product owner en soi, en lui-même.
Ouais, si on respecte bien ce qui a été défini au départ, c'est la prime qui nous est reversée.
Merci Mélissa. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus grand défi que tu as eu à relever dans ce métier de product owner blockchain ?
Donc le plus gros défi que j'ai eu à relever, je pense que c'était de m'acculturer à la tech.
D'accord.
Donc comme je te l'ai dit, on a les développeurs qui parlent tous un langage différent. Donc réussir à savoir exactement qu'est-ce qui correspondait à quoi, dans quel ordre est-ce qu'on devait le faire, où est-ce qu'on devait aller chercher les informations, ça a été le plus gros défi.
Mélissa, quelle a été la plus grande surprise dans ce métier de product owner ?
Ma plus grande surprise, ça a été de me rendre compte que les développeurs travaillent énormément ensemble, donc sont vraiment très soudés dans leur manière de travailler. Ils font ce qu'on appelle du peer coding, donc ils travaillent ensemble, à coder ensemble, même parfois en appel les uns avec les autres. Et on a souvent l'image de dire qu'un développeur, il est tout seul derrière son ordi, un petit peu le geek dans le noir derrière son PC, alors qu'en fait, pas du tout, ils s'appellent régulièrement et ils travaillent ensemble sur un projet.
Ils ne sont pas seuls dans leur coin, comme on peut l'imaginer.
Et non.
Ok, est-ce qu'il y a une anecdote dont tu voudrais nous parler ? Je crois que oui.
Chez Smart Chain, ce qui étonne un petit peu les personnes quand elles arrivent la première fois, c'est qu'on travaille tous en chaussettes.
D'accord, donc on enlève ses chaussures.
Ouais, c'est ça. Le sol, c'est full moquette et on est tous en chaussettes pour bosser, d'accord. Pour être plus à l'aise.
D'accord, donc il faut le prévoir, quoi.
Bah, faut le prévoir quand on est client aussi et qu'on arrive parfois et qu'on se dit « Oh là, il faut que j'enlève mes chaussures ou pas ?»
Il faut avoir les bonnes chaussettes. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les bonnes formations pour faire ce métier de product owner ?
Je dirais de faire une école de commerce sans hésiter parce que c'est vraiment la formation qui va vous apprendre à travailler en équipe et à savoir manager aussi une équipe.
D'accord. Et il faut aussi un petit peu de formation technique, comme toi, tu l'as fait en parallèle ?
C'est toujours bien de se former par soi-même. Il y a énormément de MOOC aussi qui sont mis à disposition sur Internet de manière totalement gratuite, sur Coursera ou peu importe. Donc, je dirais, oui, c'est bien de se former aussi à côté.
Ok, donc école de commerce et, disons, spécialisation un peu technique.
Ouais, petite curiosité à aller chercher sur Internet.
Ok, et toi, est-ce que tu continues à te former régulièrement ? Et si oui, comment ?
Tous les jours. J'aurais bien aimé apprendre et d'un coup arrêter d'apprendre, mais déjà, je suis dans un écosystème dans lequel, enfin, qui évolue constamment, donc dans lequel on a besoin d'apprendre constamment de nouvelles choses. Je me forme beaucoup sur Internet, donc beaucoup à travers des vidéos, beaucoup à travers des articles. Je me forme qui plus est beaucoup en travaillant parce que donc dans le média que j'ai lancé, donc Starting Blockchain.
Donc ça, c'est ta start-up. On a évoqué ça tout à l'heure en introduction de cet entretien. Donc ouais. Oui, donc ta formation, c'est aussi ce que tu fais à côté comme entrepreneuse.
C'est ça. Ouais, en fait, okay. Je suis amenée à corriger des articles que des rédacteurs vont rédiger. Je suis amenée à me renseigner au quotidien sur ce qui se passe dans l'actualité. Donc forcément, j'en apprends tous les jours davantage en me disant « c'est quoi exactement ça ? Je ne le maîtrise pas totalement. Bah, pour le vulgariser, il faut que je le maîtrise. »
Et pour expliquer ça plus clairement à ceux qui nous écoutent, donc ça, on est dans Start in Blockchain, qui est un média auquel ceux qui nous écoutent peuvent accéder pour en savoir plus sur la blockchain, c'est bien ça ?
Absolument.
Ok, donc c'est le moment d'expliquer que ceux qui nous écoutent peuvent aller comprendre mieux la blockchain grâce à ce que tu fais par ailleurs.
C'est ça. Donc Start in Blockchain, c'est un média de vulgarisation de la blockchain. Donc l'objectif, c'est de cibler les personnes qui sont débutantes et de leur donner vraiment toutes les bases et toutes les clés en main pour comprendre l'écosystème. Et ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on aime bien l'illustrer à travers des cas d'usage. Donc on va vous prendre des cas d'usage quotidiens qu'on va vous décortiquer, que ce soit sous la forme de post ou sous la forme d'interview vidéo ou interview écrite.
Et ça, on le trouve comment ? Startinblockchain.com ?
Start-in-blockchain.fr.
On mettra le lien dans les commentaires du podcast pour que ceux qui le souhaitent puissent aller plus loin sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des certifications professionnelles dans ton métier ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, c'est encore une technologie qui est très jeune. Donc, c'est très dur de pouvoir se former à la blockchain au sein d'une école ou au sein de certification. Donc, ce que je recommanderais, c'est surtout d'aller chercher des informations sur Internet, de beaucoup lire, de beaucoup regarder de vidéos. Il y a des certifications qui existent, des certifications type Alira ou Pirates Lab qui a lancé sa nouvelle école blockchain très récemment. Mais le mieux, c'est toujours de chercher l'information sur Internet parce qu'aujourd'hui, on trouve vraiment tout, surtout sur l'écosystème sur Internet.
Ok, on rajoutera quand même les petits liens vers les deux sites dont tu parles pour aller plus loin pour les certifications. Mélissa, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans ce métier ?
Alors, je vous dirais de bien vous renseigner sur la méthodologie agile.
D'accord.
Donc, il y a beaucoup de manières de faire, que ce soit sur Internet, des petites formations, des livres que vous pouvez acheter directement même en magasin. Et de bien échanger avec des personnes qui font ce métier pour vraiment réussir à ficeler les différences entre l'endroit dans lequel vous allez travailler et le type de technologie sur lequel vous travaillerez, la manière de laquelle vous travaillerez, parce qu'il y a vraiment des spécificités entre les entreprises et je trouve ça hyper intéressant d'en parler avec les personnes directement.
Ok, très bon conseil. Mélissa, pour conclure, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient en savoir plus sur à la fois ton métier et peut-être aussi la blockchain ?
Je dirais, soyez curieux et allez directement chercher l'information. Allez rencontrer des personnes directement pendant des événements. Je pense notamment à des événements blockchain ou Web3. Allez directement échanger avec les personnes, lire du contenu sur Internet. Donc, je peux vous conseiller la super page startinblockchain.fr et nos différents réseaux sociaux. Mais n'hésitez vraiment pas à chercher l'information et être vraiment proactif. Dans vos recherches.
Merci Mélissa. Une dernière petite question. Si ceux qui nous écoutent souhaitent te contacter, ils peuvent le faire comment ?
Ils peuvent le faire directement sur LinkedIn, donc Mélissa DSD. Et n'hésitez pas, je suis assez open pour répondre.
On mettra ton profil également dans les commentaires du podcast. Mélissa, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.